voilà, je suis très heureux d'être là ce matin pour expliquer ce thème, retenir ou diffuser la grâce, comment, hein. Quand on a vécu une session, eh bien, qu'est-ce qu'on va retenir, comment on va retenir les choses et comment on va diffuser ce qu'on a reçu. Et j'ai voulu vraiment coller au thème de la session, au thème des pèlerinages de Lourdes, qui est vraiment la grâce cette année. Donc, j'essaierai d'être fidèle et de ne pas parler d'autre chose, vous voyez. Bon, j'espère. Alors, je me disais peut-être en introduction qu'il faut prendre conscience, chacun d'entre nous, que grâce à notre baptême, nous sommes d'une certaine manière aussi comblés de grâce. Hein. Nous ne sommes pas l'Immaculée Conception, c'est certain. Nous avons une inclination au péché qu'on appelle la concupiscence, dont parle le catéchisme hein, au numéro 1264. Mais en préparant cet enseignement, me venait le saint Paul, vous savez, dans sa première aux Corinthiens, quand il parle aux Corinthiens, voilà ce qu'il leur dit. « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus, car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole, toutes celles de la science. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Vous manquez d'aucun don. Vous êtes comblés de toutes les richesses, celles de la parole, etc. Oui. Enfin, nous sommes sauvés. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes temple de Dieu. Et donc c'est important, vous voyez, de pas être dans un tempérament un peu de victime, mais de prendre conscience de ce don-là. La sainteté est à la fois un don qui nous est fait à notre baptême, aussi un cadeau à ouvrir, mais il est là. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Nous pouvons être des saints. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas méchant, Dieu. Hein? Bon, alors, je me disais, d'accord, nous pouvons être des saints du côté de l'émetteur. D'ailleurs, du côté de Dieu lui-même, il n'y a pas de souci, hein, c'était l'évangile de dimanche dernier. La parabole du semeur, enfin, plus exactement la parabole des terrains plutôt, parce que on parle pas beaucoup du semeur. En tout cas, on parle de plein de terrains. Mais au niveau du semeur, ça sème là, ça descend là. Il n'y a pas de problème. La question, c'est comment accueillir cette grâce, comment être un bon terrain, comment être un réceptacle et faire que ça porte du fruit, 50, 100, etc. Et je voudrais le voir à la fois au niveau spirituel et aussi au niveau humain. Il y aura deux parties, d'accord ? Et une conclusion sur la mission. Comment, au niveau spirituel, eh bien, accueillir cette grâce ? Au niveau spirituel, comment ne rien perdre de tout ce qu'on a reçu? Eh bien, il me semble qu'il y a un mot, c'est faire la différence entre la générosité et le don de soi. La générosité et le don de soi, le don indéterminé de soi. Si je suis dans l'offrande de moi-même, eh bien, à ce moment-là, je ne perds rien de ce que j'ai reçu. Si je suis simplement dans la générosité, eh bien, je vais perdre au fur et à mesure ce que j'ai reçu. Hein. Ce qui permet la diffusion de la grâce, la diffusion, le rayonnement, les fruits, c'est ce don de soi. Alors, je dis ce que dit Thérèse d'Avila, hein, dans le chemin de la perfection, au chapitre 30, elle dit ceci, Dieu prend ce que nous lui donnons, Dieu prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une façon absolue. Il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une façon absolue. C'est exactement l'itinéraire de Pierre. connaissez pour la plupart les évangiles, l'évangile de Jean, vous savez, où Pierre va passer de la générosité au don de soi. Au chapitre 21, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas aller. » Au départ, Pierre, il est un peu dans la générosité. Il dit « Seigneur, moi, tu vas voir, je vais me battre pour toi, je vais te défendre, etc. » Enfin, il se fait le super guide spirituel de Jésus. Il le dit, chapitre 13, Pierre lui dit « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répond « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Donc, en fait, tu veux donner ta vie, etc. Tu veux te battre, tu vas sortir l'épée, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui, enfin, très bien. Mais il va falloir que tu découvres, en fait, profondément ta misère, que tu as besoin d'un sauveur, et à un moment donné, tu vas vraiment me suivre. C'est intéressant parce que le mot « suis-moi », « suis-moi », hein, pour Pierre, il est présent dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 21. Avant le chapitre 21, il n'y a pas de « suis-moi » pour Pierre. Bien sûr que Pierre l'a suivi, mais le mot, voyez, « suis-moi », vous l'avez au chapitre 21. Donc, voyez, c'est ça le point de basculement dans la vie spirituelle, hein, que Thérèse d'Avila, pour ceux qui sont fans de vie spirituelle, hein, dit que c'est le passage de la troisième à la quatrième demeure. Hein. Troisième demeure, c'est un peu le jardin anglais, c'est qu'on gère les choses, tout est bien réglo, etc. La quatrième demeure, c'est « ça y est ». Il y a les voiles là qui sont ouvertes et le Seigneur nous mène là où on ne penserait pas forcément aller. Et donc c'est, vous voyez, ce point de basculement entre la générosité et le don de soi qui suppose le renoncement à sa volonté propre. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi concrètement les différences entre la générosité et le don de soi ? Alors, vous l'avez exactement, je cite un peu l'écriture parce que j'aime bien, ça illustre, et puis c'est, l'évangile, c'est assez connu. Vous l'avez avec le jeune homme riche en Matthieu 19. Il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il est très réglo le gars. Tous les commandements, je les fais moi. Le jardin anglais, ok ? Et Jésus lui dit « Va, ce que tu as, vends-le. » Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Et là, il s'en alla tout triste. En fait, il n'arrive pas à passer de la générosité au don de soi. Son problème à lui, c'était ses richesses. Ce n'est pas le problème de tous. Hein. Les disciples, on s'aperçoit qu'ils ont d'autres problèmes. Peut-être la question de l'orgueil, avec leur question « qui est le plus grand ?» Lui, c'est la richesse. Et Jésus lui dit « mais va !» Allez, ouvre, largue les amarres, vas-y, quitte là. Fais rentrer là du vent, du souffle, de la vie, retrouve ta liberté, quitte ton pays. Va dans un endroit, je t'indiquerai, mais fais confiance. Et il cale. Il est dans la maîtrise. Alors, dans la générosité, vous voyez, parfois, alors sachez que mon propos se veut bienveillant, hein, je règle pas mes comptes avec mes paroissiens, qui vous regarde en replay, je ne sais pas, ou peu importe. En général, dans la générosité, les gens généreux, ils peuvent être généreux pour des œuvres qu'ils choisissent. Je choisis mon œuvre. En fait, moi j'aime bien faire ceci, comme mission, cela. Je fais des œuvres pour Dieu. Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu ? Ce n'est pas sûr. En fait, en tout cas, je fais des choses religieuses, voyez. Et parfois, chez certaines personnes, en fait, vous regardez de plus près, mais vous apercevez, ça peut être nous, enfin, on est tous un peu comme ça, à différents degrés, évidemment. Hein. En fait, on s'aperçoit que la personne n'aime pas forcément Dieu, finalement. Ce qu'elle aime, c'est les choses de Dieu. En fait, vous avez la personne qui aime les choses de Dieu. Alors, par exemple, vous avez la personne, ce qu'elle aime, c'est le Christ, les sessions, les groupes de prière, etc., parce que ça me donne un certain état. Moi, j'aime, là. Allez, donc, quand je vais dans ce groupe de prière, il y a de l'onction, là. Saint-Esprit, tu descends. Waouh, ça souffle. Tu descends. Je suis transporté, là, j'ai des larmes. Vous vous rendez pas compte, là. Mais dans ce groupe-là, pas dans l'autre, mais dans ce groupe-là, c'est... Et je vais de session de groupe en groupe pour ressentir une émotion. J'adore les émotions. Là, moi, j'aime bien l'abbaye romane, là, ou cistercienne, je sais pas quoi, avec le granit froid, le grand salvé, là, le soir au compli. Salvé, la petite lumière, là, j'ai la chair de poule. Ah, j'ai la chair de poule. Ça, pour ce monastère, ça me donne la chair de poule et j'y retourne chaque année pour retrouver la chair de poule. Vous voyez? Donc, vous aimez les états. Bon. Alors, vous avez d'autres, par exemple. Ce qu'ils aiment, c'est, en fait, j'aime bien travailler pour l'église parce que ça me conduit à des relations. Moi, j'aime, en fait, le Christ, mais surtout l'église, parce qu'il y a des réunions, il y a des réseaux, il y a des discussions, il y a des groupes de partage, il y a des débriefs. J'aime, en fait, les relations. Dans mon travail, c'était pas très sympa, mais alors, là, avec mon groupe, là, de prière, c'est vraiment sympa. Et on refait le monde, on explique, etc. Voilà. Je suis valorisé, en plus, parce que je suis responsable du groupe. Et donc, j'aime bien, et ça fait 23 ans que je suis responsable. Bon. Voilà, hein. On change pas une équipe qui gagne, hein. Voilà. Bon. Vous voyez, en fait, j'aime les relations. Alors, il y en a d'autres. En fait, vous apercevez que vous savez pas s'ils aiment le Christ ou s'ils aiment les connaissances. Tout ça, c'est ce que dit le pape François, hein. J'invente rien. C'est dans la joie de l'évangile, hein. Je fais que du copier-coller, hein. Les numéros 89 et suivants, hein. Bon, vous l'a peut-être pas dit comme ça jusqu'à maintenant, je sais pas. Donc j'aime les connaissances. J'aime les cours. J'aime, alors, il y en a qui se vont à la cato de ceci, l'auto Bernardin, voilà. Le père machin, alors, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai fait le cours sur Saint-Marc, sur Saint-Matthieu, sur Saint-Luc. Alors, il y a un nouveau prêtre, là, qui fait un cours sur Saint-Marc. J'ai déjà fait Saint-Marc, mais je vais le refaire quand même avec un nouveau parce que c'est intéressant. C'est un autre regard, tu comprends? Voilà. Et donc, ce que j'aime, c'est me former. Alors, on dit à la personne, mais tu pourrais peut-être t'occuper des catéchumènes ou... Non, je suis pas assez formé. Vous vous rendez pas compte? Catéchumène, c'est sérieux, hein. Donc, bon. Là, ça fait 12 ans que je prends des cours, mais... Je pense que je pourrais continuer. Alors, il y en a d'autres, ils aiment le Christ parce que ça leur donne un cadre, une norme. Alors, moi, j'aime les valeurs. Au moins, c'est carré. Hein, la religion, c'est ça, c'est péché, ça, c'est pas péché, ça, c'est droit, etc. En fait, ce que j'aime, c'est la loi. Mais est-ce que tu aimes le Christ ou est-ce que tu aimes la loi, les normes, vous voyez? Donc, je vous donne ces petits exemples, hein, mais faut être honnête. Mais même moi, je vais vous le dire, on est entre nous. Parce que ma maman, elle habite à Pau. Et donc, je vais la voir à Noël, jusqu'au 31 décembre. Et je dis, maman, veux-tu aller à Naï, aux Béatitudes, pour qu'on fasse le 31 décembre aux Béatitudes? Elle me dit, oh non, mais vas-y tout seul. Moi, je suis à 89 ans. Elle se trouve très, elle aime pas trop veiller. Mais elle était très, 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 très heureuse que j'aille aux Béatitudes à Naï le 31 décembre. Très heureuse! Mais je suis honnête avec vous, hein. Pourquoi je suis allé le 31 décembre à Naï? Pour passer un bon temps, c'est tout. Parce que je me suis dit, je vais retrouver des frères que je vais voir à la session de l'été, comme ils m'ont demandé de prêcher, je vais pouvoir comme ça faire mon business. Je vais passer un bon repas. Voilà, on va s'occuper de moi. Je suis pas du tout allé pour me convertir. Je suis allé pour passer un bon temps. On a le droit de passer des bons temps. La question, c'est quand toute notre vie, nos activités religieuses, voyez, je force le trait, je suis caricaturiste, évidemment, ne servent qu'à passer un bon temps. Voyez, vous comprenez. Alors, l'objet, c'est la question, hein. Bon. Alors, une des clés, voyez, pour voir si la personne choisit les œuvres de Dieu, choisit Dieu, c'est la question de l'obéissance. C'est que quand on demande quelque chose, enfin, la question de l'obéissance, parfois. Parce que moi, vous savez, je sais pas. Comme dit, bon, est-ce que Paul, tu pourrais prêcher une retraite en Martinique? Oh, ben, si vraiment vous voulez, je peux faire un effort, hein, je laisserai la paroisse à mes confrères et puis j'irai en Martinique. Oui, je peux, à la limite. Bon. Oui, donc ça, c'est obéir, ça va. Hein, obéir pour aller en Martinique, prêcher une retraite, c'est bon. Non, mais, donc c'est pour ça que c'est parfois l'obéissance est un critère, mais pas toujours. Et parfois, c'est quand l'obéissance nous déplace. Je pense, moi je suis de l'Emmanuel, mais je pense à mon responsable, le responsable des prêtres de l'Emmanuel, qui est des profs de Bible. Et du jour au lendemain, il a arrêté tout cours de Bible. Et je lui ai dit, écoute, chapeau. Parce que s'occuper des prêtres, c'est joyeux, puis c'est un peu douloureux aussi, vous savez, parce qu'il y a les prêtres qui vont bien, les prêtres qui vont moins bien et tout. Je lui ai dit, t'as fait l'offrande, quoi, vous voyez ? D'une certaine manière, et il le reconnaît, bon. Puis il a reconnu cet appel, bien sûr. Hein, l'obéissance, en général, va pas totalement contre notre nature. Mais la question de l'obéissance est intéressante. Alors, ensuite, il y a la question après l'objet, la question du temps. Hein, c'est pour bien différencier générosité et don de soi. Le temps, c'est la personne qui, en fait, ne peut rendre service, ne peut être en mission qu'au moment qu'elle a choisi. Donc en fait, c'est la parabole du bon samaritain, hein, il est de Jérusalem, il va à Jéricho, le gars, il y va pas pour une promenade. À l'époque, on n'a pas de problème d'obésité, etc., on fait pas trop de promenades, c'est pas le concept. Si on va de Jérusalem à Jéricho, c'est qu'on a quelque chose à faire. Et dans ce quelque chose que j'ai à faire, j'ai quelqu'un qui barre ma route, c'est quelqu'un qui est en train d'agoniser là dans le sentier, et je me dis, je dois arrêter mon activité pour l'autre. J'accepte d'être dérangé. Là, vous voyez quelqu'un qui est docile au Saint-Esprit, s'il est capable d'arrêter ce qu'il fait pour autre chose. C'est le grand secret de Thérèse, toujours d'arrêter la plume au moment où la cloche sonne. Après l'objet, après le temps, vous avez la manière. Est-ce que je suis dans la générosité ou le don de soi? Le don de soi, c'est, vous voyez le don de soi à la manière. La manière, ça veut dire, je suis donc en église, j'ai une activité, un projet, je le soumets à quelqu'un, j'ai envie de faire ça, 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 et la personne me dit, ah, mais on pourrait peut-être faire un peu différemment, faire comme ça, etc. Et puis tu pourrais peut-être travailler avec un tel. Et là, très curieusement, la personne commence à se mettre en colère. Bah, écoute, tu me fais pas confiance ou quoi, là? Non, mais ton projet, il est bien, mais on peut peut-être le modifier légèrement. Et la personne ne veut pas modifier. C'est vous prenez tout, vous prenez rien. Voyez? Et ensuite, vous avez les destinataires. À quoi je vois que le don est indéterminé? C'est très visible chez les prêtres, parce que les prêtres, certains prêtres, ils sont capables de faire un mariage à 800 kilomètres. Mon père, on vous payera l'avion, hein, vous inquiétez pas, hein. Et voilà. Par contre, ils n'arrivent pas à remplacer un collègue pour une matinée pour un enterrement. C'est très curieux. Donc on est prêt à se défoncer pour des copains à l'autre bout de la France. Par contre, on fait la tête parce qu'il faut fermer l'église ou faut l'ouvrir ou faut remplacer un collègue pour ceci, pour cela. Mais dans les paroisses, je l'ai vu aussi. Hein. Il y a une famille, madame a le cancer, vous avez toute une équipe qui se met en marche et vous avez une autre famille où il y a trois personnes, quatre, qui sont dans une chambre unique. Dans la chambre, il y a tout, hein, la cuisine, il y a tout, les trois enfants avec la maman, et personne ne se met en route pour s'occuper d'eux. C'est très curieux, vous voyez. Des personnes, on est facilement, on a envie d'aider, puis d'autres personnes, on n'a pas, vous voyez. Bon. Donc tout ça, c'est simplement pour, vous voyez, vous compreniez ce qu'on appelle le passage de la générosité au don de soi. Jésus va régulièrement dans l'évangile essayer de déplacer ses disciples. Par exemple, dans la multiplication des pains. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les gars, ils sont là à dire, attends, on a 5 pains de poisson, enfin, on a à peine pour nous. Donc c'est pas possible. Renvoie les foules. Et renvoie les foules. Alors, il dit non, écoutez, commencez à me donner, on va voir, on va gérer ça. Voyez. Ou alors, il leur dit, les disciples disent, mais alors, écoute, il y a un enfant là, il est en train de nous embêter là. Écoutez, déplacez-vous là. On va accueillir l'enfant, on va le mettre au centre, on va s'en occuper. Ou alors il dit, venez là, on va se reposer là. Venez à l'écart, Marc chapitre 6. Allez, on se repose. Et quand ils arrivent, il y a une foule qui débarque. Et là, Jésus dit, écoutez, on va faire l'inverse de ce que je vous ai proposé. On va s'occuper des gens. Et les gars, ils disent, on ferme pas boutique, on s'occupe des personnes. Donc régulièrement, Jésus, il fait passer les disciples de la générosité au don de soi. Vous saisissez, hein? Alors, c'est quoi le fruit du don de soi? Et là, j'ai demandé à Anne-Emmanuel de mettre un texte du père Marie-Eugène. Elle va nous le mettre en grand, super. Donc, c'est dans un texte qui s'appelle Le don indéterminé. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Peut-être qu'on peut encore grossir, parce que l'écran est grand, non? Grossir un peu, là, voilà. Je lis et je commente en même temps. Donc, la Vierge Marie, c'est vraiment dans le thème, et je me suis dit, il ne faut pas que je loupe ce texte. La Vierge Marie, parce que comblée de grâce par l'Esprit Saint et perdue dans la lumière simple de Dieu, avait toutes ses énergies paisiblement tendues vers la réalisation de la volonté divine. Comme elle est comblée de grâce, elle a tout son être qui est tendu vers la réalisation de la volonté divine. Elle ne cherche que la volonté de Dieu. Voici que l'archange paraît et la salue. La Vierge, est un instant, troublée par cette présence et cette louange. Mais son sens spirituel affiné a promptement reconnu la qualité surnaturelle de son messager. Elle écoute maintenant le message. Donc je le redis avec mes mots à moi. Et la Vierge Marie, ce que dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dans « Je veux voir Dieu », dans son chapitre sur le don indéterminé, elle dit en fait, elle est comblée de grâce, elle a toutes ses énergies qui sont vraiment tendues, et du coup, la Vierge Marie, elle est troublée un instant. C'est-à-dire qu'elle passe pas 3 semaines à vous répondre. Que les gens, c'est ça, vous leur envoyez une demande, et vous dites, mais c'est bizarre, ils n'ont pas de connexion ou quoi là? Vous voyez? Ils répondent pas. Il faut qu'on discerne, on va réfléchir, etc. Elle est troublée un instant. Et ensuite, son sens spirituel a promptement reconnu la qualité du messager. C'est-à-dire que si nous sommes dans le don total de nous-mêmes, on va reconnaître les passages de Dieu. Si on n'est pas dans le don de nous-mêmes, si on recherche les choses de Dieu, on va pas reconnaître le passage de Dieu. Parce que Dieu, parfois, il passe par la joie, mais parfois, il passe par la croix. Des fois, il passe par nos amis, des fois, il passe par nos ennemis. Vous voyez, plus nous sommes dans l'offrande de nous-mêmes, plus nous sommes attentifs, purifiés pour une écoute saine. Et donc, c'est quoi le message? Vous allez concevoir et enfanter un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera éternellement sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Alors on continue. Marie a compris. C'est bien le Messie dont l'ange lui propose de devenir la mère. Elle n'y avait point songé, car elle s'ignorait elle-même. La simplicité de sa grâce lui en voilait l'immensité. Elle ne connaissait que Dieu et sa volonté. Devant ces perspectives qui s'ouvrent soudainement devant elle, elle ne posera qu'une question, car elle est préoccupée de sa virginité. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Rassurée par l'ange qui lui répond, le Saint-Esprit descendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. La Vierge Marie, sans hésitation, sans demander quelques jours pour réfléchir et consulter, ou même quelques instants pour se préparer, donne pour elle-même et pour toute l'humanité son adhésion au plus sublime et au plus terrible des contrats, à l'union en son sein de l'humanité à la divinité, au calvaire et au mystère de l'Église. Et le Verbe se fit chair. grâce au fiat de la Vierge, qu'une disposition d'offrande complète et indéterminée avait depuis longtemps préparé en son âme souple et docile. Hyper importante cette dernière phrase. Le Père Marie-Eugène m'informe que la Vierge avait, à un moment donné de sa vie, quand, on ne sait pas très bien, il ne dit pas quand, mais à un moment donné de sa vie, la Vierge, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une disposition d'elle-même, une offrande d'elle-même, complète, indéterminée. Et cette offrande complète, indéterminée, au sens un peu de l'indifférence ignatienne, avait depuis longtemps préparé en son âme, souple et docile. C'est-à-dire que son âme, pourquoi elle a dit oui ? Elle n'a pas dit oui à une chose. Elle a dit oui à une personne. Elle n'a pas dit oui à un projet. Elle a dit oui à une aventure dont elle ignore le déroulement. On ne lui dit pas comment cela va se faire d'ailleurs. L'Esprit Saint te couvrira de son nom, mais qu'est-ce qui se passe entre l'Esprit Saint te couvrira, il sera grand, il sera fils du Très-Haut. Mais qu'est-ce qu'elle voit Marie quand même? Elle voit quelqu'un qui est insulté, traité de Belzéboul, qui finit sur une croix. Qu'entre la promesse et la réalisation, waouh, il y a une certaine distance. Mais c'est pas grave. Marie, elle a tout donné dans un don absolu, indéterminé. Et voilà. Mais voilà, elle n'aurait pas pu dire oui à l'ange si elle n'avait pas eu cette attitude de fond. Voilà ce que dit le Père Marie-Eugène. Cette attitude de fond, évidemment, donne une souplesse avant l'action, en quelque sorte. Hein. Il le dit aussi, le Père Marie-Eugène, c'est-à-dire que les gens, vous voyez, sont ouverts. Quelqu'un qui est dans le don de soi total, il est ouvert. Et puis, au moment de l'action, après l'action, vous avez une énergie. Quand vous avez donné votre vie, vous avez une énergie. Quand vous subissez les ordres des autres, de la communauté, de mon curé, le truc, faut faire des choses. Si je suis tout le temps à subir, j'ai pas d'idée. Et puis, évidemment, ça donne une fécondité, et évidemment, ça donne une communion entre nous. Vous comprenez que moi, je suis très sensible comme ça en paroisse. Si j'ai des paroissiens, et c'est valable aussi pour nous ce matin, qui sont dans l'offrande totale d'eux-mêmes, dans ce don absolu, pas dans la générosité. La générosité, c'est « Mon père, on peut vous aider vendredi soir une fois par mois si vous voulez. » Bah oui, mais j'ai pas besoin de vendredi soir, moi j'ai besoin du jeudi soir. Parce que jeudi soir, c'est là où il y a les jeunes, c'est pas le vendredi soir. Ah bah oui, mais jeudi soir, c'est notre soirée, machin. Bon, ok, bon, ça va être compliqué alors. Donc, si, vous voyez, je suis face à une communauté qui est dans l'offrande, ça ressource un prêtre. Et vous, laïcs, c'est pareil, ou consacrés, nous sommes ressourcés par des gens qui font l'offrande de vous-même. Et vous-même, quand vous avez un saint curé ou un saint curé d'Ars, vous savez, le curé d'Ars, au départ, il a dit « Mes paroissiens, ils sont un peu comme des bêtes. Hein. » C'est comme ça qu'il a dit. Hein. À la fin, il a dit « Il y a des saints dans mon cimetière. » Donc, vous voyez, on a besoin de la sainteté des autres. Donc ça, c'est pour le don indéterminé. Ça va ? Alors, le Père Marie-Eugène, il dit que ce don, il doit être absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on donne tout. Ensuite, il doit être indéterminé, c'est-à-dire, ok, Seigneur, tu peux aller dans toutes les pièces de mon appartement, tout. Enfin, je te donne tout. Ouais, c'est comme la personne qui discerne une vocation en disant, je veux surtout pas cette vocation. Et c'est pas indéterminé, ça. Voilà. Et puis, il dit, le Père Marie-Eugène, il dit, ça doit être renouvelé. Et c'est pour ça que je vais vous proposer, donc, pendant la messe, de donner votre vie avec la prière de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort. Voilà, je vous choisis aujourd'hui au Marie, en disant, mais Seigneur, on a reçu, eh bien, en fait, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie, etc. D'accord ? Donc là, c'est au niveau spirituel. Qu'est-ce qui fait que la grâce passe ? Ben, c'est qu'on a des gens qui s'ouvrent, comme dit le Père Marie-Eugène, ou comme la Vierge Marie, qui s'ouvre totalement à la grâce. Elle est comblée de grâce. Il n'y a pas d'obstacle. Et donc, puissance de Marie. Puissance de Marie. Hein. Après, je vais en arriver maintenant au niveau humain. C'est-à-dire que je pense que la grâce de Dieu est comme comprimée, empêchée par des maladresses humaines. C'est-à-dire, vous avez beau aimer le Seigneur, si vous ne savez pas gérer un conflit, eh bien, c'est la catastrophe. Vous avez beau prier, ça marche pas. Alors, pour cela, comme je suis pas présenté, du coup, je me présente au milieu. Si, j'ai pas dit grand-chose sur moi, donc, oui, je me suis même pas présenté, je crois pas. Donc, je suis curé d'une paroisse, voilà, à Paris. Et avec les béatitudes, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Vivre nos relations dans la paix ». Pourquoi je vous présente ce petit livre ? Parce que je me suis aperçu que, en fait, nos relations entre nous, c'était compliqué. Et j'ai voulu que ce livre soit un assemblage de trois disciplines qui sont l'exégèse, les sciences humaines en quelque sorte, psychologie, etc. Et puis la vie spirituelle. Pourquoi l'exégèse ? Pourquoi la parole de Dieu ? Parce que tout ce que je dis sur la relation à l'autre sort de l'épître de Jacques. Donc je suis pas dans un discours moralisant. Il faut faire ça, ça c'est péché, etc. J'ai jamais eu de gens qui m'ont dit « Vous nous faites des sermons ?» Tout est dans l'épître de Jacques. Donc ça sort de l'écriture. Ensuite, j'ai voulu mettre des éléments de management, de psychologie, de coaching, etc. Du bon sens. Parce que aimer, ça s'apprend. Aimer quelqu'un, ça s'apprend. Éduquer, ça s'apprend. Donc on peut pas, vous voyez, tout le temps, en communauté, dans nos groupes, dire simplement « Oh, t'as des difficultés avec un tel, faut s'abandonner, faut faire confiance. » Vous voyez, oui, tu peux t'abandonner, mais dans les actes des apôtres, quand il y a des conflits en acte 6, en acte 15, ils disent pas « On va prier. Hein. » Ils disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» On peut prier un peu, on va réfléchir, on va appeler des autorités, on va faire ça, vous voyez ? Il y a un savoir-faire. Et parfois, simplement dire « on va s'abandonner, on va faire confiance », c'est hyper manipulateur. Et en fait, je déserte le problème. Je dis à l'autre « écoute, c'est la croix. Voilà, qu'est-ce que tu veux ?» Tu vois, ta difficulté avec ton patron, je sais pas quoi, ton collègue, ton épouse, mais c'est la croix. Non, bah oui, c'est la croix, mais enfin, quand t'es malade, tu vas chez un médecin, voilà. Bon. Et puis j'ai mis des éléments spirituels. C'est en quoi tous ces éléments d'exégèse, de psychologie ont des répercussions spirituelles. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que éléments de psychologie, la colère chez Jésus est hautement spirituelle. Hein, le premier geste de Jésus public dans l'évangile de Jean, c'est sa colère au temple, ce qui veut dire que la sainteté passe par la colère. Qu'est-ce que c'est qu'une juste colère ? Ça, c'est encore voilà, autre chose. Mais voilà. Donc ça, c'est les trois éléments. Alors, aujourd'hui, je voudrais simplement donner deux éléments humains qui me semblent compliqués entre nous. C'est la question du pardon. Je pense qu'on ne sait pas demander pardon à l'autre. C'est plus du vécu hein, que je... voilà. Donc vous savez que quand on demande pardon, quand on a fait quelque chose de mal, c'est important de rejoindre le langage de l'autre. Donc le langage de l'autre, j'en ai parlé hier, je donnerai des exemples différents par rapport à hier. Arriver à dire « je suis désolé ». Je suis désolé. Vous voyez. Donc ça veut dire arriver à passer de l'objet, tel ou tel vase que j'ai cassé, etc., à me dire, mais tiens, la personne, qu'est-ce que ça a fait en elle ? Ben, elle, ce vase, c'était le vase qui avait été offert par une copine, etc. C'est très important, ce vase. Alors tu lui dis, bon, je vais te racheter un vase, hein, vraiment, je te demande pardon. Mais c'est pas le même vase, c'est celui-là qui est cassé. Et je voudrais que tu sentir en toi, je sens pas en toi la tristesse, c'est la connaissance de ma tristesse, comme c'est dommage. Ça, c'est le premier langage, arriver à dire, à exprimer des regrets. Le deuxième langage, c'est la responsabilité. Vous avez des gens qui arrivent pas à dire « j'ai eu tort ». Ils sortent la voiture Ben, elle se prend la barrière, là, et la personne vous dit, ah, dis donc, là, c'est mal foutu, ces sorties de parking, là, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est, voyez, le problème, c'est la sortie de parking. Donc ça, c'est la responsabilité, arriver à dire, j'ai eu tort. Vous comprenez que la grâce, elle passe quand des gens arrivent à dire, j'ai eu tort. La grâce, elle passe pas quand les gens arrivent pas à se reconnaître responsables. Comme dans la Genèse, hein. La première conséquence du péché, c'est je suis pas responsable. C'est pas moi, c'est la femme. Mais c'est pas la femme, c'est le serpent. Et le serpent, il dit, c'est pas moi, c'est Dieu, il m'a créé, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, la conséquence du péché, c'est je ne suis pas responsable. Le troisième langage, c'est réparer. Vous voyez, on vous a, votre, je sais pas quoi, votre, vous êtes en communauté et puis votre frère de communauté a laissé la porte ouverte. Vous avez votre trottinette qui a été volée. La trottinette, elle coûte 349 euros. S'il peut la rembourser, ce serait sympa. Parce qu'il a les moyens. Je sais qu'il a les moyens. S'il me dit simplement, ah, je suis désolé, Paul, vraiment, c'est, je demande pardon, hein, c'est vraiment pas de bol, hein. Le quartier, c'est vraiment malfamé, hein. Alors, tout ça, ouais, mais j'ai plus de trottinette, là. Tu poses pas la question, tiens, peut-être réparer, quoi. Bon. Ensuite, il y a le repentir. Quatrième langage. Le repentir, c'est la capacité de changer pour que ça ne se reproduise pas. Vous êtes aux béatitudes, par exemple. Vous avez une sœur. Alors, c'est la sœur qui fait l'accueil. Alors, la sœur qui fait l'accueil du monastère, eh bien, elle oublie un truc sur sept. Un truc sur sept, c'est pas beaucoup, mais enfin, quand même, un sur sept, c'est beaucoup, en moyenne. Et alors, je lui dis, écoute, tu sais que tu nous as pas prévenu que le plombier venait, là, ce matin, là. Donc il a sonné, c'était les lodes. Ah, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Ah, vraiment, je suis confus, je suis désolé. Bon, voilà, je vous demande pardon. Mais alors, elle vous dit pas comment elle va faire, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est ça que je voudrais entendre. Je suis désolé. Bon, il faut vraiment que je trouve un moyen pour pas oublier. Ah ben, je vais me faire un petit carnet que je vais poser là. Et puis, dès que j'ai une information, au lieu de tout noter, je vais juste mettre un mot. Plombier. Et puis, c'est des petits feuillets là. Ça coûte 2,50€ les 100 feuillets. Et puis, je prendrai à chaque fois la petite feuille, je la mettrai dans ma poche, parce que j'ai un scapulaire avec une poche en dessous, là. Et comme le soir, je reprends toujours mes clés, eh bien, je vérifierai s'il n'y a pas un papier. Ah ben voilà, je suis content. Ah ben là, je suis satisfait. Tu me rassures. Vous voyez ? C'est-à-dire que le repentir, je mets les moyens que ça ne se reproduise pas. Puis la dernière chose, c'est demander pardon. C'est-à-dire le mot pardon. Je te demande pardon. Faut prononcer le mot. Il n'a pas prononcé le mot. Donc, ça veut dire que je vais te demander pardon. Tu peux me donner le pardon, comme tu peux ne pas me le donner. Je suis mendiant. Je suis dans l'attente. Je peux pas te pardonner pour le moment. Je te pardonnerai plus tard. J'ai besoin. C'est compliqué. Ce qu'on a vécu ensemble, c'est besoin de réfléchir. Ouais, voilà. Donc la personne faut qu'elle soit en position basse. Pour que elle reçoive de quelqu'un d'autre ce pardon, ça veut dire perdre un peu de son autorité, remettre sa vie dans les mains d'un autre, c'est pas évident. Et parfois, on n'a pas cette humilité-là, on n'arrive pas à prononcer. Donc ça va, la question du pardon, ça me paraissait important. Par rapport à un deuxième thème humain, ça sera mon deuxième. Puis après, il y aura encore un troisième. Mais bon. Mon deuxième thème, c'est sortir de l'interprétation du réel. Sortir de l'interprétation du réel. Le réel qu'on interprète. Je donne un exemple que j'ai vécu il y a 3 mois dans mon presbytère. Il est 7h23, je suis à la cuisine. J'ai préparé mon bol de thé, un grand bol de thé avec 2 tartines. Je n'ai pas commencé à toucher. Et tout d'un coup, je me dis, à mon avis, j'ai la messe à 7h30. Je vérifie sur le téléphone, oui, messe à 7h30. Je laisse tout en plan, je fonce en bas, parce que le presbytère est au-dessus de l'église, donc je descends, j'enfile la chasuble, 7h30, la messe commence. Et j'avais, pour la petite anecdote, un étudiant qui faisait la cloche là. Bon, donc il a fait l'enfant de cœur, voilà. Donc la messe s'est bien déroulée. Elle a commencé à 7h30, elle a fini à 8h. Et à 8h, on est entré dans la sacristie et l'étudiant a fait un peu de bruit avec la cloche. Bon, parce qu'en l'arrangeant, ça fait du bruit. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tour de contrôle à la cuisine? À la cuisine, j'ai 3 vicaires avec moi. Ils sont à la cuisine, il est 7h40 et ils disent, ils me l'ont dit, hein, tout ça, c'est pas l'interprétation. Vraiment, Paul, il a commencé la messe en retard. C'est quand même quelque chose, hein. Il oublie, quoi. C'est galère, quoi, ce curé qui oublie la messe dominicale. Puis à un moment donné, à 8h, ils descendent, comme ça, et puis ils entendent la cloche. Et ils disent, il en est encore à la consécration. On remonte, c'est pas la peine de se déplacer. Donc ils remontent. Moi, je termine la messe, je commence les laudes. Il faut savoir, pour la petite histoire, que j'avais dit que je ne serais pas aux laudes, parce que j'avais un rendez-vous avec le diocèse, que donc je voulais prier de 8h à 9h, avant de partir au diocèse, je voulais donc dire les laudes de manière privée, là. Et du coup, je ne les vois pas arriver, qu'est-ce que je fais? J'annule les laudes, parce qu'on a les laudes tous les matins en paroisse. Et je peste en disant, ils se foutent de moi, je leur ai dit sur le WhatsApp que je ne serai pas là aux laudes, ils ne sont pas là, mais c'est vraiment, j'en ai ras-le-bol de cette équipe, quoi. Vous avez compris? On était dans l'interprétation du réel. Ils voient un bol, des tartines, tout laissé en plan. Ils interprètent que je suis en retard. Je ne suis pas en retard. Ils entendent une cloche. Eh bien, je suis désolé, mais la cloche, elle n'est pas dans l'église, elle est dans la sacristie. Et moi, j'interprète de mon côté qu'ils se foutent de moi, pas du tout. Ils disent, on va pas descendre, la messe n'est pas terminée. On était dans l'interprétation du réel. Donc, on se blesse quotidiennement, en interprétant. Hein. Vous avez ça dans la parabole du fils prodigue et du fils aîné, où le fils aîné, voilà que ton fils revient après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Et toutes les dames catées disent aux enfants, vous voyez, il a été voir des prostituées. Bon, c'est pas bien, hein. On va pas vous dire ce que c'est, hein, le mot, bon, allez. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le fils aîné, qu'il a été voir des prostituées? Il n'est pas sorti de la maison. La petite Thérèse a vécu la même chose quand elle est donc au Carmel et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et à ce moment-là, elle était à côté d'une autre sœur, c'est dans le manuscrit C, hein, donc la troisième partie de l'histoire d'une âme. Et il y a une autre sœur qui est à côté et elle se dit, ah, dans un Carmel, vous n'avez pas beaucoup de distractions, hein. Donc c'est super, celui qui sonne à l'entrée, ça va faire un peu de gaieté, hein, un peu comme nous, on regarde notre téléphone quand on s'ennuie, c'est la même chose à l'époque. Je vais laisser l'autre religieuse aller ouvrir, comme ça elle va profiter d'une distraction. Moi je vais simplement défaire mon tablier doucement, afin qu'elle ait le temps d'y aller. Pour pas qu'on voit trop que je suis à lui laisser la place, quoi. Et là, elle entend la supérieure qui dit, en gros, je vous dis avec mes mots, dis donc, Thérèse, vous êtes vraiment la dernière à rendre service, là. Et elle dit ceci, bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature, et je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme, et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Elle, au lieu de rentrer dans la colère en disant, mais arrête, c'était... Voilà, je voulais que... Donc elle dit, tiens, je ne redresse pas. Et elle continue, cela m'empêche aussi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugé favorablement, car je me dis ceci. Puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection. La personne qui fait une bonne œuvre, on croit qu'elle fait une bonne œuvre, exactement comme Judas. Tiens, Judas, il s'en va. Ah ben certainement qu'il va aider les pauvres. Jean chapitre 13, certainement. Et Jésus ne redresse pas. Arrêtons d'interpréter le réel. Vous savez, c'est exactement ce qu'a vécu Bernadette à Lourdes. Comment C'est qui Bernadette ? Bernadette, c'est la fille du voleur. Pourquoi c'est la fille du voleur ? Parce qu'il y a un moment donné, le boulanger, là, monsieur Maison Grosse, c'est son nom, a été volé d'un sac de blé. Et du coup, on cherche le coupable. Et apparemment, celui qui aurait besoin de blé, ben, c'est peut-être monsieur Soubirou. Regardez comme ils sont pauvres, la famille. Et voilà ce que dira monsieur Maison Grosse. Il dira, je l'ai accusé parce qu'il était le plus pauvre d'entre nous. Et du coup, voilà, il va faire 8 jours de prison, accusé faussement, ensuite il n'y a pas de fumée sans feu, et ensuite, heureusement, le cousin, monsieur Sajous, a un logement en dessous de chez lui, providentiel. Bon, ce logement est un petit peu humide, c'est sûr. Mais en fait, quand même, ça va aider la famille. Mais le problème, c'est que ce logement, c'est le cachot de Lourdes. C'est une prison. Donc, en fait, c'est super parce que... Enfin, je fais du second degré, là. Ça va renforcer la réputation de voleur. On a tous les signes extérieurs qui confirment bien que monsieur Soubirou est un voleur. Il est dans un cachot. C'est exactement comme ça qu'on va crucifier Jésus. Vous savez, quand on livre Jésus à Pilate, Pilate dit, mais alors, quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent, si c'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Tu n'as pas vu tous les gardes qu'il y a là ? On n'a pas sorti les gardes pour rien. Cet homme est dangereux. On travaille pas pour rien. Donc attends, ben, on n'est pas n'importe qui. On va s'appuyer sur ce qu'on voit. Donc on passe notre temps à interpréter des paroles sans se renseigner auprès de la personne. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire ? Des signes, des gestes, des... En plus, à travers les journaux, après, il y a ceux qui interprètent. On m'a dit que... Enfin, vous avez plein d'interprétations. Non. Maintenant, allez, on va décider. J'ai un regard bienveillant sur les personnes, sur les communautés. J'arrête dans la surinterprétation. Et quand j'ai une question, je me renseigne à la personne elle-même. Et je fais pas un film, je fais pas le psychologue. D'accord ? Donc ça, c'est les deux points que je voulais dire. C'était le pardon et l'absence d'interprétation. Je l'ai intitulé... l'absence de l'interprétation du réel, sortir de l'interprétation du réel. Une dernière chose, je pense, pour garder la grâce, c'est un mot dans la vie chrétienne qui s'appelle la vertu. La vertu dans la vie chrétienne, c'est l'habitude. On ne devient pas saint en un instant. On devient saint en posant des petits actes habituels répétés. Je trouve très touchant que la Vierge à Lourdes demande un 18 février 58 à Bernadette de venir pendant 15 jours. Tu vas venir pendant 15 jours. La Vierge va apparaître sur les 15 jours 13 fois. C'est pas très grave, il y a deux fois elle se déplace, la Vierge n'est pas là, c'est pas gênant. Ce qui est intéressant, c'est l'habitude. Tu vas ancrer dans ta vie une habitude. Et donc, à la fin d'une session comme celle-ci, c'est quelles sont les habitudes que je dois mettre en place ? Les habitudes de prière. Je vais prier quand ? Combien de temps ? Où ? À quel moment de ma journée ? Les habitudes par rapport au sacrement du pardon. Quand on se confesse, on note dans son agenda quelle est la prochaine fois qu'on se confesse. Ah, mon père, oui, je me confesse, c'est habituel, moi, c'est tous les combien ? Bon, c'est à peu près tous les ans, hein. Tous les ans, on peut faire plus que tous les ans, comprenez ? Vous voyez ? Quelle est l'habitude ? L'habitude, je me dis, tiens, en fait, faut que je rencontre des gens. À la sortie de la messe, je suis dans une grande ville et je pars un peu vite. Non, mais décide de parler à quelqu'un. L'habitude du coucher. À quelle heure je vais m'endormir ? Et les gens, vous voyez, à partir de 22h, ils commencent à surfer sur Internet, à regarder un peu n'importe quoi, là. C'est pas le moment. Enfin, tu vas sur Internet, tu sais ce que tu vas regarder. Puis tu sais que l'écran, en fait, il t'abîme les yeux, parce que ça te les réveille, c'est comme de la lumière, donc ça empêche l'endormissement. Voilà, cette habitude, elle doit être, comment dire, comprise avec joie, je sais pas comment dire, c'est-à-dire, elle doit être reconnue comme quelque chose de bien pour moi. Si je mets en place une habitude sans que ça soit compris, intériorisé comme quelque chose de bon, je vais pas la tenir. Si je pense pas que prier c'est bon pour moi, je vais pas prier. Vous voyez ? On ne garde que ce qu'on aime. Je suis désolé, mais il faut aimer. Alors, je me dis que si, un, nous sommes dans ce don indéterminé de nous-mêmes, une sorte d'ouverture très large, si, deux, nous faisons attention à nos manières très humaines, en fait, d'aimer, si, trois, nous mettons en place des petites habitudes, forcément, le Seigneur va creuser en nous un cœur de compassion. Et je voudrais conclure avec ça. En fait, vous savez, ce passage que vous connaissez en Matthieu 9, hein, Jésus parcourait toutes les villes, les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute langueur. Et à la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc c'est saisissant, hein, Jésus qui voit ces foules, et ce qui le gêne pas, c'est pas la maladie qui les gêne, hein, qui le gêne, pardon, Jésus, c'est pas ça, ce qui le gêne, Jésus, c'est qu'elles sont comme des brebis sans berger. Ce qui me gêne, c'est qu'elles savent pas où elles vont. Et là, il voit les foules, il voit dans les foules ce besoin des foules d'avoir un berger. Et il dit, mais priez le maître d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est intéressant parce que dès l'époque de Jésus, ça manque d'ouvriers. Donc Jésus, super apôtre, fils de Dieu, dès son époque, il s'est pas appelé suffisamment d'ouvriers. Bon, c'est assez curieux, mais peut-être que c'est simplement pour nous dire, priez, 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 priez. Pourquoi ? Pour avoir un cœur de compassion. Un cœur de compassion, c'est un cœur qui, quand il rencontre des personnes, voit la détresse. Là, la détresse, c'est qu'elles n'ont pas de berger. Pour vous compreniez, je prends une petite parabole. J'étais donc prêtre à Paris. J'ai ensuite été curé à Vannes pendant 7 ans. Je n'avais pas de voiture. Parce qu'à Paris, on n'a pas de voiture la plupart du temps, parce qu'on ne peut pas la garer. J'ai dû acheter une voiture. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais acheter comme voiture ? Et je me suis dit, peut-être que je peux acheter une C3, peut-être une 208, peut-être une Fiat. Et j'ai commencé à regarder les voitures sur l'autoroute. Avant, je ne les voyais pas, les voitures. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que la C3, là, elle était un peu bondée, là, assez basse. La 208, elle était plus sport, que la Fiat, elle était plus comme ça, etc. Je devenais un spécialiste des petites voitures. Parce que j'avais le souci de trouver une voiture pour moi. Eh bien, c'est ça la compassion. C'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, vous allez faire vos courses, vous allez aller dans votre maison de retraite, si vous êtes dans une maison de retraite, vous allez au travail, n'importe où, tout d'un coup, vous détectez les brebis qui n'ont pas de berger. Ça devient naturel. Et à ce moment-là, vous allez être inventif. Et vous allez vous dire, mais tiens, pour lui, pour elle, allez, je vais l'inviter pour un café, et on va faire ceci, on va faire cela. Vous voyez, c'est ça. La compassion, c'est comme ce qui est donné par surabondance quand les gens donnent leur vie. Alors que le Seigneur donne à chacun d'entre nous ce désir vraiment de s'offrir, et on a toute notre vie pour nous offrir, pour que enfin on soit cet outil, ce disciple qui détecte la détresse des hommes et transmette la grâce aux hommes. Amen.